Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Celui qui n'a pas de vie intérieure est-il forcément superficiel ? Et quelle superficie recouvre cette absence de pensée intime, de secret, d'expérience privée, de solitude ? Qu'est-ce que c'est que cette profondeur censée s'exprimer dans ce qu'on nomme la vie intérieure ? Est-ce que ces profondeurs sont articulées ou pas, par exemple ? À dire vrai, je ne crois pas que j'ai jamais bien compris ce que signifiait l'idée d'intériorité, sa réalité spécifique, la conception selon laquelle ce serait le propre de l'existence humaine. Peut-on vraiment avoir des pensées, des sensations, des expériences internes, privées, indépendantes de la façon dont on peut les décrire, les exprimer, y compris par soi-même ? Sauf à penser que ce sont simplement des pensées, des expériences, des sensations qu'on ne dit pas parce qu'on les oublie, parce qu'elles sont inintéressantes ou parce qu'on a autre chose à faire. Dans son livre « Le mythe de l'intériorité », Jacques Bouvresse explique que pour Wittgenstein, la distinction intérieure-extérieure n'a pas beaucoup d'intérêt. Même les concepts qui décrivent ou qui donnent l'impression de décrire des expériences internes privées, comme ceux de douleur, vision, sensation, pensée, compréhension, doivent être caractérisés, décrits, appréhendés par le langage, par la manière dont ils entrent dans des jeux de langage public que nous jouons les uns avec les autres. C'est ce que dit Wittgenstein. Vouloir remonter au-delà, trouver un fondement ou un pseudo-fondement, un avant, un moment inarticulé avant le langage, c'est entrer dans une sorte de rêve mentaliste, le mythe d'une vie intérieure. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, ce sont des histoires qui se passent bien dans leur tête, mais au sens propre du terme, pas dans leur vie intérieure, des histoires imaginaires et bien réelles, médicales, des jeux de langage, de la grammaire, trois récits dans leur tête. Une étude comportementaliste par Léa Minot jusqu'à 14h sur France Culture. Vous écoutez, bien sûr, les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
J'avais 18 ans, c'était l'année de mon bac. J'étais laid, j'étais con, j'étais un mec tout à fait banal. Je ne savais pas m'habiller. J'étais persuadé d'avoir la barbe alors que j'avais juste un duvet stupide sur les joues et sur les lèvres. Je fumais pas, je buvais certes, mais bon, au bout d'une bière, j'étais complètement mort. Enfin, j'étais pas le genre de mec dont on était fier de dire qu'on me connaissait. Et à une soirée où à laquelle je m'étais rendu, il y avait cette fille Léa que j'ai juste croisée. On s'était juste claqué la bise, mais je l'avais trouvée particulièrement jolie. Elle était plutôt grande, blonde, avec de grands yeux verts. C'était pas le genre de fille que j'avais l'habitude de voir. Il se dégageait quelque chose de très positif d'elle. Quelques jours plus tard, j'avais croisé un camarade de classe dans le métro, avec un grand sourire, parce qu'on n'avait rien à se raconter. Je lui ai dit, ah ben moi j'ai du nouveau, maintenant j'ai une copine. Il dit, ah ouais, c'est vrai. J'ai dit, elle s'appelle Léa, elle habite à Alfortville, on s'est rencontrés en soirée, on s'est tout de suite plu, et c'est à ce moment-là que ça a commencé. J'ai inventé une relation avec elle pour me rendre intéressant, pour qu'on parle de moi, pour qu'on arrête de sortir l'histoire sur laquelle j'étais puceau, le genre de complexe qu'on a quand on est au bahut. Mes camarades avaient fait une pétition pour que je leur présente. Et au bout d'un mois, mon anniversaire est arrivé, donc forcément tout le monde s'attendait à que ma soirée d'anniversaire, on la voit enfin. Je dis non, on l'a cassé parce que ça marchait pas. Voilà. Et c'est retombé comme un soufflet. Ensuite, j'ai fait une prépa scientifique et j'étais assez amoureux d'une fille, Bérénice. Je sais pas comment attirer son attention. Un jour, je suis arrivé en classe et je tire une tête de 3 mètres de long et Bérénice me demande pourquoi tu tiens une tête pareille. Je sais pas pourquoi, j'ai aussitôt répondu que Léa, mon ex, m'avait recontacté pour me dire que sa maladie orpheline était revenue et que je ne savais pas quoi faire, que j'étais dévasté pour elle, qu'elle allait avoir besoin de moi. Je suis inventé une histoire du chevalier servant qui, quelque part, me faisait plaisir, donnait un but à ma vie, en me disant que c'était une fille virtuelle, mais que j'allais aider une fille virtuelle. J'inventais qu'elle était passionnée de Maupassant, qu'elle était vierge et qu'elle était trop fragile pour qu'on fasse l'amour. C'était quelque chose, c'était construit quelque part entre la dame aux camélias et, je sais pas, la Digne Comédie de Dante. Je construisais mon propre mythe. Il fallait que tous les matins je me présente comme étant dévasté, triste, vis-à-vis de mes proches. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais de gros problèmes de colère, de violence. Je m'étais tout cassé, je m'étais hurlé. Et je trouvais que ce serait beaucoup plus explicable si jamais j'avais une amie malade, que les gens comprendraient, ça les toucherait, et que du coup ils me pardonneraient cela. C'était le moyen que j'avais trouvé pour me rendre intéressant. Il faudrait que j'ai une vie très romantique ou que j'ai quelque chose d'exceptionnel pour que les gens s'intéressent à moi, pour que les gens me pardonnent mes crises de colère, pour que les gens me pardonnent tous mes défauts. J'avais déjà fait une crise de colère devant Bérénice. Elle n'avait plus parlé pendant un mois entier. Et donc je voulais qu'elle me pardonne cela, en se disant, mon Dieu, il a beaucoup à subir. Bérénice, elle m'a vraiment soutenu. Ça nous a beaucoup reproché. Elle est devenue ma meilleure amie. C'est ça qui est très bizarre. Je me suis mis à croire mon propre mensonge. Je maigrissais, je souffrais, j'en faisais des cauchemars, j'en pleurais. Ça en devenait réel. Je me suis retrouvé empêtré dans ce mensonge. Je me disais plusieurs fois par jour, est-ce que je suis devenu fou, mon Dieu ? Et le 4 août 2007, j'ai annoncé à mes proches que Léa était décédée. Je mettais un point final à cette histoire. Et en même temps, je ne faisais qu'à commencer parce que maintenant, j'en allais en appeler à l'aide de mes proches pour qu'ils m'aident à surmonter ce deuil. J'en ai pleuré. J'en ai fait des cauchemars parce que j'étais vraiment triste. Mais, de fait, j'étais triste pour moi-même. Je me suis dit, pauvre petit garçon, tu as besoin de ça pour que les gens s'intéressent à toi. J'ai vraiment fait une dépression à cause de ça. J'étais encore plus irritable qu'avant. Mon excuse que j'avais, au lieu de me poser la vraie question, c'est à cause de Léa, c'est à cause. Donc non, c'est que je savais pas me gérer, je savais pas. J'avais peur de regarder la vérité en face, alors Léa était devenue une excuse convenable. Et j'ai perdu pas mal d'amis à ce moment-là. Ils ne savaient pas quoi faire pour m'aider à surmonter ce deuil. Dans le cas de Bérénice, elle a coupé littéralement les ponts avec moi. Quelque part, je pense qu'elle s'est rendue compte que j'ai monté cette histoire en épingle pour me rapprocher d'elle. Un an après la mort de la fausse Léa, j'ai croisé la vraie Léa dans la rue. Elle l'avait aménagée à côté de ma fac, alors que je croyais que c'était elle qui m'avait marqué, c'est elle qui m'a reconnu. Tu te souviens de moi ? Elle dit oui, absolument, je me souviens de toi. Elle m'a dit, il faut qu'on se fasse un déjeuner, un dîner, un de ces quatre. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et je m'en suis rendu compte. Elle était bien différente de celle que j'avais créée en fantasme, qui était une espèce de femme idéale, une espèce de prototype romantique que je m'étais créé. C'est que Léa était stupide. C'est vraiment le genre de personne dont on dit « Oh, ben elle est gentille ». C'était une fin ironique. Cette fille que j'avais d'abord décidé qu'elle était ma copine juste pour en faire valoir au lycée. Donc j'avais décidé que j'allais être son veuf et le pleurer en prépa également pour en faire valoir. Et s'est rendu compte qu'elle était à milieu de la personne que j'avais fantasmée et la personne qui avait défini une partie de ma vie quand j'étais jeune. À la fin, j'avais plus besoin de ça pour en faire valoir auprès de mes potes. J'ai quitté la prépa, j'ai commencé une fac. J'avais peu besoin de mentir pour que les gens s'intéressent à moi.
À l'été 2015, j'avais 35 ans. J'habitais à Montréal. Je menais ma vie comme n'importe quelle travailleuse autonome française au Québec. Mais j'avais quand même des symptômes assez étranges. J'avais des petits moments d'absence. Et ça m'arrivait même parfois de dire des choses qui n'étaient pas ce que je voulais dire, en fait. Par exemple, c'est arrivé avec ma sœur l'année dernière, qui en l'occurrence est ma sœur jumelle. Je me souviens qu'on dormait dans le même lit, qu'on partageait le même lit. On était en train de discuter, et puis là, hop, comme une petite étincelle dans la tête. Et là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Ne me lâche pas, ne me lâche pas ». En fait, j'étais comme ailleurs. Ma parole s'exprimait, mais c'était pas moi qui le disais. Et c'était comme une façon de lui dire « Occupe-toi de moi dans les mois qui viennent, parce qu'il va se passer des choses ». Donc je suis allée voir une psychologue, j'ai vu mon médecin généraliste à plusieurs reprises, j'ai vu un acupuncteur régulièrement aussi. Puis souvent on me disait c'est psychologique. Donc c'était un peu pour moi catégorique parce que ça voulait dire qu'il fallait que je vive avec ça. Et ça continuait, c'était vraiment même de plus en plus fréquent. Puis je commençais aussi à avoir des troubles au niveau de la vision. Et puis un jour, j'ai insisté auprès de mon médecin traitant pour passer un scanner. Et moi, j'y allais vraiment en me disant, je vais m'assurer qu'il n'y a rien. Donc j'ai passé le scanner. Un peu plus tard, le soir, j'ai participé à un 5 à 7 avec ma propriétaire qui habite au rez-de-chaussée de chez moi, en fait. Un 5 à 7, c'est un apéro, mais québécois. Et puis là, ça faisait peut-être 1h30, 2h qu'on discutait. Moi, j'avais mon téléphone au fond de mon sac qui était éteint. Et les policiers, en fait, sont venus sonner à la porte de ma propriétaire. Et ils ont demandé, est-ce que Sophie est ici ? Puis là, quand on voit des policiers venir, on s'imagine tout. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de grave que j'ai oublié ? Est-ce que... Et puis, ils m'ont dit, vous avez passé un examen ce matin ? Je leur ai dit oui. Et ils m'ont dit, écoutez, on a trouvé une masse au cerveau. Il y a un risque de coma. On doit vous hospitaliser de toute urgence. Puis là, je me souviens que je me suis assise à la table de la cuisine de ma propriétaire. J'ai mis ma tête entre mes deux mains. Et puis, je me suis dit, OK, ça va s'arrêter là. Je me souviens vraiment de la nappe de la table de cuisine. Je la regardais en me disant, en fait, ça peut être aussi brutal que ça, parfois, la vie. Et puis, moi, ils m'ont emmenée dans l'ambulance à l'hôpital. C'était le 17 ou le 19 juillet de cet été, vers 5h de l'après-midi. C'était presque beau, en fait, sur le scanner. Ça fait comme une petite balle de ping-pong qui était logée au niveau de ma tempe gauche, donc un petit peu au-dessus de l'oreille. C'est ça qui, en fait, compressait mon cerveau. J'ai été opérée le 29 juillet. Il faisait très chaud à Montréal, c'était la canicule, je me souviens. Quand je suis sortie de la salle d'opération, c'était la pleine lune et je me souviens d'une lune qui ressemblait à ma tumeur, justement orange, très grosse, dans le ciel. Je suis sortie 4 jours après l'opération et puis je suis rentrée chez moi, puis je me suis allongée, puis j'ai dormi. Je me suis dit que j'étais une survivante, que j'avais eu beaucoup de chance. J'ai un très beau balcon à l'arrière de mon appartement qui donne sur un très beau parc. Et là, j'ai vu deux oiseaux, des oiseaux rouges qui traversaient. Puis là, j'étais très émue. Puis je me suis dit, en fait, la vie, c'est ça. C'est ces moments très simples de beauté et de poésie. Je me souviens qu'avec ma maman, très souvent, comme je pouvais encore peu marcher après l'opération, je la prenais par le bras. Et puis, on faisait un tour de parc. C'était dans le silence parce que très souvent, j'avais beaucoup de mal à supporter le bruit et les paroles. On a pris le temps, en fait. C'était comme se réapproprier la vie. À la place de la tumeur, mon cerveau, parce que le cerveau est magnifiquement bien fait, a pris toute sa place. Par contre, j'ai une petite plaque de titane, en fait, au-dessus de l'oreille, que j'entends parfois le matin au réveil. Ça fait comme un petit tic, 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 tic. Des fois, j'entendais des petits bruits d'eau aussi. Ça, c'est mon cerveau qui s'en mettait à sa place. Et ça m'est arrivé de demander aux personnes qui étaient autour de moi, est-ce que vous entendez ce petit bruit étrange, cette petite musique? Et puis donc c'est ça, mon cerveau a repris sa place, il y a juste un petit espace en haut à gauche, mais vraiment très petit, qu'on voit sur le scanner, Le cerveau n'ira pas là. Puis j'aime bien l'idée que ce petit espace reste inoccupé. Je me suis dit, ça restera ma petite marque de fabrique. Hein.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, quand je suis en voiture, j'arrive pas toujours à comprendre.
D'accord.
Vous entendez quelque chose là ?
Comment ?
Vous entendez quelque chose ?
Non. Là, j'entends rien pour l'instant. Moi, je conduis, une voiture me dépasse et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'engueule. Et ça parle vite. Ça parle vite. C'est l'aventure de la nouvelle vie, quoi, c'est ça. C'est que la vie, le bruit de la vie de tous les jours m'échappe, ça c'est sûr. J'entends crier les enfants, ouais.
Ah, vous avez entendu ça?
Voilà. Hop. C'est bon. Moi, j'habite juste à côté. Ben voilà. Dans le calme de ma demeure. Moi, je m'appelle Patricia Fermis. J'ai 60 ans. Jusqu'à l'âge de 55 ans, j'étais infirmière. Je suis devenue sourde il y a 5 ans et entendre le monde, on ne se pose pas la question si on l'entend, c'est naturel. On n'a pas de repère, on va dire, avant de perdre son audition. J'ai une maladie grave qui m'a laissé la surdité en cadeau. Une méningite qui m'a emmenée pendant une semaine dans le coma. Et tout ce que je me souviens, c'est que j'étais hospitalisée, allongée. Et le médecin est venu avec son diapason et je n'ai rien entendu. C'est tout ce que je me rappelle. Et ensuite, j'ai eu des acouphènes qui sont arrivés. Cette sensation continue, permanente, d'un bourdonnement sans arrêt. On dirait toute une armée. Même le bruit des abeilles est plus agréable. Parce que ce sont les abeilles qui bourdonnent, c'est pas vous. Et on vous dit, ça va passer. Et puis moi, je leur dis, écoutez, hein, si il y a une pulsion plus forte que l'autre, je passerai par la fenêtre, hein, ça c'est clair. C'était impossible pour moi de pouvoir continuer à vivre. Quand je repense à ce moment, je me dis que là, j'étais soulevée par une force invisible. Il va y avoir l'orage. C'est l'orage. Alors, j'ai entendu un grondement qui correspond peut-être à une voiture qui passe aussi. Mais j'ai vu l'éclair. J'étais dans le couloir en train de marcher, parce qu'il fallait que je marche à l'hôpital. Hein. Et puis j'ai commencé à parler, à discuter avec quelqu'un qui passait. Et quelqu'un s'est retourné. Et puis j'ai dit, bah oui, je suis sourde. Et elle m'a dit, mais parlez moins fort, c'est pas une raison. Les jours qui ont suivi, on a commencé à me préparer, rééducation, on va vous apprendre à maîtriser votre voix.
Vous avez comme un accent anglais quand vous parlez.
C'est ce qu'on me dit. Et il fut un temps où, quand je parlais, c'était comme Robocop. C'était... mais bon... Ça a changé, puisque j'ai eu de la rééducation. Je ne peux pas dire qu'à un moment donné, je me suis projetée en disant que j'allais rester sourde. Non. Tout me manquait au niveau du son. Tout. Le lit qu'on faisait, l'infirmier qui arrivait, tout me manquait. Oui. Je vivais une coupure nette de tout ça. Ma famille qui venait me voir... Je ne t'entendais pas. Tout ça, coupé. Si on ne regarde pas, on ressent même plus les sensations, le déplacement de l'air, les ondes, tout ça, on ressent rien du tout. Le boum boum de mon cœur, je l'entendais. Je l'entendais. Je l'entends toujours d'ailleurs. Avec ou sans oreille. J'ai fait ma méningite le 17 février 2011. Le 27 février 2011, j'étais sourde comme un pot. Et le 9 mars, j'étais implantée des deux côtés. Tout est noté dans ma tête. Hein. En même pas un mois, tout était pesé, emballé. Et il fallait faire vite. Après l'implantation, je suis contente parce que je vais entendre. Et au moment où on me rétablit le son, c'est la déception complète. Je n'étais pas préparée à entendre ce bruit de moteur, ce bruit de machine, ce bruit de tout ce que vous voulez, sauf le bruit, mon bruit à moi. On m'a fait comprendre tout de suite que c'était exclu de pouvoir entendre le bruit que j'avais avant. Je suis dépitée, déboussolée, perdue. Je me rappellerai toujours le premier bruit que j'ai entendu, reconnu, sans l'aide de quiconque. Qui me disent, ça c'est ça, c'est les oiseaux. Oh, il y en avait plein dans le parc de la clinique. C'est des petits bisous sucrés. J'étais... Ça, c'est exactement ce que j'entends. Et c'est peut-être le bruit le plus agréable depuis que j'ai mis dans le plan. Après, les autres bruits sont arrivés, mais déjà celui-là... Quand j'ai quitté la clinique, c'était au mois d'août. J'ai envie de me débrouiller toute seule. Je marche pour aller prendre le bus. J'étais décidée à reconnaître ce bruit. J'y vais, concentrée sur ce bruit que je veux entendre, et toute seule. J'étais dans le bus, je me suis assise, et voilà, je suis à l'affût. Le bruit du bus était très fort. Et là, je m'accroche. Pour ne pas enlever l'implant, pendant tout le trajet, je l'ai supporté. Ce bruit-là me permet de m'accrocher à quelque chose de palpable. Et en quittant le bus, je me concentre sur le bruit de mes pas. Je ne les entends pas. Bon, je ne les entends pas parce que j'avais des baskets. Si j'avais des talons, peut-être que je les aurais entendus. Mais bon, passe. Mais je marche, je marche, je marche, je marche. J'arrive... La clé dans la porte, ça c'est la clé dans la porte. Je recommence, voiture, ça c'est la clé dans la porte. Ouais. J'ai entendu le bruit du train, j'ai entendu la pluie qui tombe, j'ai fermé les yeux pour être sûr que c'était la pluie qui tombait. Et puis tout doucement, je me suis appliquée, bon élève, pour me rééduquer avec le bruit que me permettait cette oreille, cette nouvelle oreille. Le jour où je suis allée prendre un café et j'ai entendu la cafetière sans avoir à me retourner, j'étais comme ça parce que j'étais contente. Je m'étais entraînée bien avant de faire travailler une cafetière devant moi, d'enregistrer le son. Il fallait que je puisse réapprendre des bruits familiers en fait, les réapprendre. Je crois que si je devenais complètement sourde, que je n'entends plus ces bruits, là ça va être la mort.
Il y a des photos là.
Ce sont mes trois enfants. Ils sont grands maintenant, donc ils sont plus à la maison. Mais j'ai le souvenir de la voix de mes enfants. Et quand ils me parlent, je me raccroche à ce souvenir. Mais c'est tout le visage que je regarde pour capter quelque chose d'avant. Et là, c'est une photo que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a ma mère. Et c'était la photo où je suis retournée aux Antilles quand je suis devenue sourde, cette photo-là. Là, c'est ma mère et là, c'est moi, avec mes nouvelles oreilles. Je suis retournée en Guadeloupe, mai 2012, au moment de la fête des mères. Oh, le bruit de la mer. Je me rappelle, c'était un matin, très tôt. Entre 6h30 et 7h, le soleil se lève très tôt là-bas. Et j'étais vraiment décidée à écouter le bruit de la mer, rien que ça. Je me suis préparée avec le souvenir d'avant. J'arrive à sur la plage de mon enfance, la plage de l'autre bord. Je m'installe, je ferme les yeux, et là, le bonheur. Non seulement j'entends la vague, je l'entends arriver, et je l'entends repartir. Et voilà, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était exactement le bruit des vagues que j'entendais avant l'intervention. C'est peut-être le seul son naturel, on va dire, qui correspond à ce que j'avais avant et aujourd'hui. Pour moi, c'est comme si j'étais entendant à ce moment-là. She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Dans leur tête, trois récits de Léa Minot, réalisés par Delphine Lemaire, avec un coup de main de Marie Placet. Merci à Émilie Brouze et à Suzy Margueron de la RDDS. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore. Nathalie Hérault, c'est notre stagiaire. Vos commentaires, c'est sur notre site ou bien sur les fameux réseaux sociaux où je vous engage et vous encourage à publier, partager et commenter nos émissions. Si vous voulez pouvoir nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, si vous aimez les Pieds sur Terre, je vous engage et vous enjoins. Je vous engage en tout cas à vous abonner à notre podcast.